Écoute, c'est parti, man. Je fais ça. Vincent et Mika, merci d'être là avec nous autres.
Plaisir, hein.
Vraiment cool. Il y a une gang qui va t'écouter. Puis, c'est clair que moi, je te suis depuis quoi, plusieurs années maintenant. Tribu, expérientiel, maintenant Tribu. Il y a Jackalope là-dedans, etc. Peux-tu juste tracer un petit portrait vite fait de... C'est quoi Tribu? Vous avez combien de brands? C'est assez impressionnant, là.
Thanks. Maïka Desforges, fondateur, président de Tribu Expérientiel. Fait que j'ai créé l'entreprise dans ma cour arrière du quartier Rosemont il y a 10 ans. Maçon, première avenue, on a fait une compétition de snowboard, un peu party, maison, qui a dérapé. Finalement, je me suis réveillé le lendemain avec une migraine.
Mais... Sérieux, j'avais aucune idée que c'était ça, là.
C'est vraiment en mois d'octobre, en 2009, je pense qu'on avait emmené de la neige, d'aréna, puis des modules de snowboard avec un spa.
J'essaie de pas rire, man, parce que c'est vraiment rare comme début, là.
Mais tu sais, c'était un appartement où on vivait trois personnes, c'est vraiment quartier ultra résidentiel, Maçon, première avenue. Puis on avait fait plein de parties, puis un de ces parties-là, il y en a un qui a comme kickstarté une business. À l'époque, Tribu n'existait pas, mais en 2009, sans le savoir, je travaillais pour Infopresse. On est dans les anciens bureaux d'Infopresse, parenthèse actuellement. Avec ma dernière job, je travaillais chez Infopresse ici.
T'avais quel âge à l'époque, juste pour contextualiser?
Bonne question. J'avais quoi, 25, 26, là, j'ai 36 aujourd'hui, fait à peu près ça, 25, 26. Puis ma dernière job, ça a été chez Infopresse. À l'époque, on fait des parties dans mon appartement. Il y a un des parties qui explose, c'est celui qui s'appelle Backyard Gym. On faisait du snowboard en octobre. Il n'y a pas de neige nulle part. On a emmené la neige, on a loué un spa. Il y a eu 100 personnes, des médias, des familles qui venaient de dropper leurs enfants.
Tu chargeais quelque chose?
C'était rien, juste non, c'était gratuit. Il y avait 3-4 sponsors, genre avec des banners sur la clôture. La soirée a été bien arrosée. Le lendemain matin, quelqu'un qui m'a dit « Je te mets au défi de faire un événement plus gros que ça. » Ben, je fais « OK, challenge accepted. » Puis de là, tu sais, comme c'est parti, tu sais, cette drive de dire, tu sais, comme je veux envie de vivre de ma passion, puis j'aime rassembler les gens. J'aimais toujours faire des parties, mais tu sais, je voyais pas encore un modèle d'affaires. Puis à l'époque, il y avait le SAGE, S-A-G-E, qui était l'école d'entrepreneuriat qui existe sous un différent nom aujourd'hui. Mais l'école d'entrepreneuriat m'a permis d'avoir du cash qui rentrait, puis de faire des cours. Puis de l'événement de 100 personnes dans ma cour arrière en 2009, sur la rue Saint-Denis, coin Saint-Laurent-Saint-Denis, on avait, je pense, 15 ou 18 000 personnes en 2015. Un événement qui s'appelait City Trooper. Puis c'était show télé, 20 000 $ en bourse, méga événement.
Même en partenariat avec Empire à l'époque?
Ouais, exact. Les boutiques Empire, Monster, Mazda, vraiment un gros budget de plusieurs centaines de milliers de dollars. Fait que le petit événement a grossi. J'étais allé au Dragon, dans l'Île du Dragon en français et Dragon's Den en anglais. Justement, Dragon's Den, c'est le premier épisode de la saison 14 sur Netflix. Premier épisode, premier pitch sur Netflix saison 14. Épique comme turnout. En tout cas, ils ont tout dit non. Puis quand les lumières fermaient, genre dans le studio, puis j'étais comme tabarnak. Là, éventuellement, Arlene, elle me dit Michael, come back. Puis là, je me retourne comme un chevreuil avec les lumières dans face. Bref, je retourne à mon petit X, puis elle me fait une offre, je fais un contre-offre à l'accès, on the spot. Okay. Puis ça a été un énorme succès de visibilité surtout. Le show au Québec avait bien marché. Là. Il y avait 5 dragons qui voulaient embarquer. Puis en tout cas, on a fini par faire un deal. Ça a été cool. Martin-Luc Archambault, Serge Beauchemin sont investisseurs chez nous. Puis ouais, c'est une longue parenthèse, mais ce qui a commencé par une idée puis un party, c'est éventuellement transformer une business de 15 employés avant la pandémie. On faisait des événements un peu partout au Canada, un peu aux États-Unis. Surtout des événements de type sportif, hivernaux ou en été aussi. On a nos propres marques, là, Jackalope, qui est le plus gros festival de sport extrême au Canada, qui se déroule au Parc olympique en août. Puis, on fait aussi plein d'événements pour des entreprises, comme on fait du e-sports pour Ubisoft en février à Place Belle à chaque année. Énorme production, il y a 3 millions de dollars à gagner. C'est un gros, gros show qui est vu par 50 millions de personnes sur Twitch, traduit en 14 langues, en tout cas. Je pourrais t'en parler longtemps, mais je te dirais qu'avec la pandémie, on s'est transformé. Aujourd'hui, j'ai remis ma casquette d'entrepreneur que j'ai tous les jours, en fait, mais je cherche des nouveaux projets, je cherche des nouvelles aventures. Puis aujourd'hui, on est 8 employés, pardon, puis on passe à travers la tempête en mode pionnier.
Ouais, parce que vous autres, c'est des gros événements, il y a du monde, c'est des festivals, c'est des venues, vous allez un peu partout dans le monde. Tu parlais de... t'sais, un peu de, t'sais, du commencement à Montréal, mais il suffit d'aller sur votre site web. C'est ce que j'encourage d'ailleurs tout le monde là, qui écoute en ce moment, allez checker le site web. Yeah, c'est vraiment intéressant. On parle de Montréal, on parle de Denver, on parle de TO, le 416, le, c'est de Austin, de Banff. Shawinigan.
Shawinigan,
Puis là, t'arrives des States en ce moment. J'ai l'impression que tu y vas souvent, même pendant la première vague. Là, je te checkais sur Facebook. T'étais un des rares que je voyais aussi qui voyageait pendant ce temps-là. Bon, tu sais, aussi pour peut-être raison personnelle, mais j'imagine que
un
bon mix des deux. Comment tu fais pour garder ta vision, être partout dans le monde en même temps, puis avoir autant de concepts différents? Grosse question, là, mais...
Non, c'est une très bonne question. Tu sais, si je la résume simplement, tu sais, je dirais que dans les 10 premières années de la business, ça fait 10 ans que Tribu existe. Puis vous pourrez aller voir tribu.co. Il y a du stock. Puis tu sais, on a vraiment tiré dans plusieurs directions, tu sais, à faire des événements pour du monde, des clients, à faire des activations de commandites, à faire de la production de vidéos. Puis avec la pandémie, il est venu une certaine réflexion sur qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Puis on avait, comme tu dis, 5 marques qu'on avait développées un peu par la bande. Fait qu'on avait Jackalope, puis Barbe Gazi l'hiver, puis une couple d'autres. On a fait un ménage dans les brands qu'on a décidé de mettre notre focus. Puis Jackalope, qui est la marque qui a toujours, je pense, le plus résonné auprès de la communauté. C'est parti d'un festival tout simple au Stade Olympique en 2012. Parce qu'il y a du skate puis un peu d'escalade, à éventuellement un événement de 15-20 000 personnes au Parc Olympique en août à chaque année.
Tony Hawk
est venu, exact, plein d'athlètes olympiques, parce que tu sais, le skate, l'escalade, c'est rendu des sports olympiques à Tokyo cette année, mais ça va être des sports olympiques jusqu'à 2032 sur la Rouen, mais c'est...
By the way, pour, tu sais, j'ai 37, on a le même âge, ça n'a pas rapport avec la discussion, mais je me rappelle encore, j'étais où quand Tony Hawk a fait son 900? Je m'en rappelle encore, mais tu sais, là, on parle là, à la relève en ce moment, là, mais à quel point, puis tu sais, on va revenir à ce que tu disais, mais à quel point les deux mots qui sont sur ton site web, là, divertissement et adrénaline, même le mot tribu, je veux dire, c'est pas choisi pour rien, là. Ces affaires-là, tu mises là-dessus, sur l'émotion à fond dans ton brand, là.
Bien, le plus possible, puis on a, tu sais, comme j'essaie vraiment que les entreprises qui nous font confiance, puis qui nous font un chèque, tu sais, qui nous engagent pour soit commanditer un de nos événements, ou soit éventuellement les aider à dépoussiérer leur propre brand, ou soit comme... Ben, t'sais, on est là pour les aider, je pense que notre rôle dans le marché, c'est vraiment de créer de l'émotion forte. Puis le sport extrême, c'est un peu comme le vecteur pour être capable de surprendre les consommateurs, les gens. Fait exemple du snowboard sur Saint-Denis, personne n'avait jamais vu ça avant à Montréal, ou c'était très...
Rare,
là,
ça t'as vu ça ailleurs? Tu l'as amené ici
ou c'est... Ben, c'est parti de la cour arrière, tu sais, comme on l'a fait dans notre backyard, puis on s'est dit on va le faire plus gros, puis on l'a fait en face des foufounes électriques avant, dans un stationnement privé, puis finalement on a fermé la rue, puis au fil du temps, ben, on est devenu quand même bon à fermer des rues, faire des gros événements, faire des événements de skidoo. Tu sais, le 375e en 2017, on avait 10 athlètes de motoneige, puis on avait comme, tu sais, ce qui est la... Le magasin de la baie, il y a la rue Union puis Sainte-Catherine. Fait que sur Union, il y avait deux méga jumps puis des trocs de neige. Puis t'as des gars en sled, en motoneige, qui jumpaient, qui faisaient des backflips. Puis il y a une shot sur notre site web, vous irez voir, où on voit comme un skidoo qui fait un backflip par-dessus Sainte-Catherine avec 20 000 personnes. Fait que tu vois cet événement-là, puis ça va faire le pont à ce que tu as demandé. C'est en 2017 que j'ai réalisé que toutes les villes étaient en concurrence les unes contre les autres pour les touristes, les sièges sociaux puis les cerveaux. Puis c'est là que le concept de marketing de destination est devenu une réalité parce que avec cet événement-là en 2017, c'était pour les célébrations du 375e anniversaire de Montréal, la ville nous demandait de faire une étude d'achalandage puis une étude d'impact économique, ce qu'on a fait par une firme externe. Fait que ce que ça disait là-dedans, c'est que la ville, parce que c'est des fonds publics, dépense tant pour que nous, on fasse notre événement de motoneige, ben, ils voulaient savoir ça crée quoi en retombée en taxes. Combien de gens sont venus spécifiquement pour ça puis ont resté dans des hôtels, sont allés manger au restaurant. L'argent qu'on a donné à nos fournisseurs, ben, c'est de l'argent qui éventuellement a été redépensé. Tu sais, les gens ont sorti leur blonde puis sont allés faire des choses, etc. Fait que l'ensemble de l'œuvre d'un événement a une empreinte en taxes pour la municipalité, les différents paliers de gouvernement. Puis éventuellement, ben, ça l'attire, puis ça permet des touristes, puis ça remplit des hôtels dans une certaine période.
Ça brand un peu la ville aussi en
même temps. Ça a un élément de visibilité. Ouais. Fait qu'encore là, on parlait de dépoussiérer des brands. Ben, tu sais, il y a des villes qui sont qui ont besoin d'attirer des gens pour stimuler l'activité économique dans les périodes plus creuses. Puis ils ont aussi besoin pour leur propre brand de se donner un peu un oomph. Fait que en 2017, quand on a eu les résultats, puis moi j'ai commencé à voyager tous les mois ou deux mois pour aller voir des villes, puis leur offrir ce qu'on avait créé à Montréal en les premières années. Puis on avait fait du mountain bike sur la rue Saint-Denis, on amenait des tas de terre avec des BMX et des dirt jumps. En tout cas, c'était un événement qui s'appelait Mud Rocker. On avait fait Barb Gazi qui était très familial, hivernal, Jackalope au Parc Olympique. On a eu Tony Hawk puis des gars qui sautent et des filles qui sautent en base jump, donc en parachute du mode stade olympique. Donc l'ensemble de la signature tribu puis de ces marques, c'était vraiment autour de l'adrénaline. Puis ça l'est toujours. Mais c'est ça, tu sais, les villes que tu as nommées, c'est des villes où on a déjà travaillé. On a fait un événement d'hiver à Banff, à Denver, à l'île du Prince-Édouard, à Shawinigan l'été. Puis avant la pandémie, on avait un deal signé pour Sao Paulo, Brésil, pour amener Jackalope. On amenait aussi Jackalope dans les maritimes. Puis tout ça a été un peu à l'eau, est tombé à cause de la pandémie. Puis là, on a commencé à investir beaucoup sur la création de contenu puis le storytelling.
D'où un peu le projet de Jackalope TV, ou c'était là avant ça, ce projet-là?
C'était toujours un rêve de créer du contenu puis raconter des histoires, tu sais, comme c'est le fun de faire de l'événementiel, mais ultimement, tu sais, comme c'est trois jours un événement, puis c'est beaucoup de temps, d'argent, d'énergie pour trois jours.
Puis le but, j'imagine, c'est de donner de la mémoire à l'éphémère avec ce projet-là.
Ouais.
Tu sais, c'est parce que c'est intense, mon gars, puis si t'étais là, puis real recognize real à un certain niveau, mais quand ça se finit, boum, il n'y a plus rien, c'est un peu de perpétuer ça, quoi, un peu, avec le projet.
Ouais, puis tu sais, d'aller, je pense, à l'encontre de ce que nous et d'autres événements faisaient à l'époque, c'est-à-dire avoir une communication plutôt promotionnelle. C'est-à-dire, tu sais, trois mois avant l'événement, c'est « Hey, l'événement s'en vient », puis là, tu vois des teasers, puis éventuellement « achète ton billet », puis après, comme t'as un petit recap d'une ou deux minutes qui sort après l'événement, puis c'est « Merci, à l'année prochaine », tu sais, comme la communication, autant que nous, on faisait ça, puis la plupart des festivals font ça, qui est une com très promo, on s'est dit avec Jackalope TV, on va avoir un style plus documentaire, rentrer dans les personnages, c'est qui nos athlètes potentiel olympique ou c'est qui notre relève. T'sais, la plupart des Québécois connaissent même pas Sébastien tout en septé ou tout en snowboard parce qu'on lui donne pas vraiment la vitrine. Mais sur Jackalope TV, on veut savoir c'est qui Septé. Puis Septé, qui est un des meilleurs athlètes en snowboard au monde, peu connu du grand public, il y a un problème, puis aussi une opportunité pour dire Annie Guglia en skate. Peu connue, mais quand même athlète féminine québécoise qui est allée en skateboard aux Jeux de Tokyo récemment. Elle a gagné deux fois le Jackalope chez les femmes. Puis c'est clair que ça l'a aidé après ça à aller à Salut Bonjour, à RDI, à toutes les chaînes de nouvelles. Puis tout d'un coup, elle est devenue visible aux yeux du grand public. Donc je pense que Jackalope était un TV, était l'extension du festival. C'est-à-dire, toute l'année, là, on veut documenter des trucs, on veut faire des road trips de la mort, on veut se promener partout sur la planète. Puis on va aller à la rencontre des gens. Puis quand le festival, tu sais, que ça devient la période du festival, bien, c'est les gens qui viennent à nous. Fait que donc, ça devient une espèce de relation entre 8-9 mois par année, on est sur la route, puis on va rencontrer du monde partout sur la planète. Puis un week-end par année, c'est nous autres qui les accueillent, c'est nous qui les host. Puis les meilleurs athlètes, les fans d'adrénaline, les gens de partout, on leur dit venez découvrir notre belle ville qui est Montréal. Puis après ça, on offre ça aux autres villes. Exact. On dit à toutes les autres villes qui sont en compétition les unes contre les autres, elles vont un skatepark. Avez-vous un mur d'escalade qu'on peut utiliser? Puis on va amener cette communauté-là qui tripe sur l'adrénaline.
Puis c'est tellement... Écoute, j'aurais tellement de questions pour toi, tu sais. Parce que c'est tellement intéressant parce qu'on voit toute la passion que tu as, là. T'sais, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Je veux dire, ça prend de la passion pour y aller au jour le jour, non?
Ben, totalement. Je pense qu'il faut que tu aimes ce que tu fais, là. Tu sais, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu sais, comme moi, je compte pas mes heures parce que j'aime ce que je fais, puis mon travail est imbriqué dans mon lifestyle, tu sais. Ouais. Donc, quand je voyage, tu l'as mentionné tantôt, en novembre dernier, on était en pleine pandémie, puis je suis parti avec ma copine, on a loué une voiture en Floride, puis on a conduit jusqu'en Californie, puis on a arrêté dans des villes stratégiques auxquelles je parlais déjà, tu sais, la Nouvelle-Orléans, Vegas, pardon. Los Angeles, puis c'était le fun de pouvoir continuer à jaser avec ces gens-là pour éventuellement exporter nos événements dans leur ville, même si présentement c'était la COVID. Mais tu sais, ce voyage-là m'a donné tellement d'idées, m'a permis de rester en contact avec mes potentiels clients. Puis on a fait les États-Unis, le Mexique, le Brésil, parce que comme je disais, avant la pandémie, on avait un deal pour amener Jackalope au Brésil. Donc pour moi, c'était de retourner au Brésil, puis de garder au moins ces relations-là en vie. Puis c'était tough, tu sais, je veux pas. Fait que oui, il faut que tu sois passionné, parce que des fois, je fais un peu l'analogie là, de ce que moi j'ai vécu comme parcours d'entrepreneur. C'est comme si je me promenais tout seul dans le bois au début avec une lanterne, tu sais, comme, puis je cherchais mon chemin. Puis ultimement, ben, quand les clients ont commencé à valider mon modèle d'affaires, c'est comme si j'étais rendu dans un 4x4 avec des lumières, tu sais, sur le top, tu sais, puis que là, je voyais un peu plus, puis j'étais en machine, en parenthèse, puis on était comme 2, 3, 4 éventuellement dans le véhicule. Puis à un certain moment, quand j'étais allé au Dragon, puis que là, la télé, ou du moins les feedbacks positifs, puis tout ce que la visibilité m'a permis de valider, c'était comme, OK, t'sais, on tient quelque chose. Puis ça a vraiment été comme l'analogie de, on est sorti de notre 4x4 du fond du bois pour être sur l'autoroute, puis là, on était sur le highway, puis on s'en va quelque part. La pandémie a, comme plusieurs, mis un frein à tout, mais ça a été un challenge de justement dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis tout de suite, au début, c'est là qu'on a lancé Jackalope TV. En juin l'année passée, on lançait Jackalope TV. Puis nos partenaires comme Vidéotron ont renouvelé leurs ententes de commandite en pleine pandémie, tu sais. Fait qu'ils nous ont fait confiance. Puis pour ça, ben, t'as beau être motivé, puis inspiré, tu sais, si personne te suit. Que...
À un moment donné, t'avais comme ce stamp de dire, OK, c'est cool, tu sais, je suis reconnu. Puis on doit faire quelque chose de bien, là, tu sais.
Ouais, puis tu sais, je pense que tout le monde a des idées dans la vie, tu sais. Mais le challenge est souvent dans l'exécution de cette idée-là. Puis je pense que c'est bon de prendre des notes, de gribouiller, de dessiner, de faire des mood boards, de parler avec des gens. Puis c'est là que je pense que tu vois ce qui stick, tu sais, comme qu'est-ce qui va vraiment fonctionner. Puis c'est un peu comme un artiste, tu sais, qui travaille son tableau ou son croquis pendant un bout de temps. Tu sais, au début, tu le sais pas, tu sais, si ça va marcher. Fait que, je pense qu'il faut vraiment valider rapidement les concepts. Puis c'est ce qu'on a fait avec plusieurs marques. On parlait avec Tribu avec plusieurs marques à un certain moment. Puis c'était du défocus. On mettait du temps dans une, dans l'autre. On n'avait jamais le temps de vraiment foncer vraiment sur une marque. Puis là, on s'est arrêté pendant la pandémie. On a dit, OK, on va pas entretenir 5 brands. T'sais. On va avoir Tribu, qui est comme notre agence pour travailler en white label. Donc, on travaille avec les clients qui veulent quelque chose de clé en main, sur mesure, pour eux. Puis on a un brand qui s'appelle Jackalope, qu'on va essayer de développer puis rendre ça aussi gros, sinon plus que les X-Games ou quelque chose comme ça.
Puis toi, tu le vois-tu comme un, je vais dire le mot là, comme un échec que les 5 brands, pour l'instant, n'aient pas été propulsés de, par rapport à ta vision, ou tu le vois comme étant une pause? C'est quoi ton feeling là?
Ah, c'est une bonne question, parce que d'un côté émotif, je dirais que c'est un échec, mais de l'autre côté, je dirais que ça a été un méga apprentissage. C'est con là, mais gérer 5 médias sociaux, mettons, parce que chaque brand avait sa page Facebook, son Instagram et son YouTube et Instagram. Fait que là, chaque brand avait, on va dire, 3-4 channels médias sociaux. Il aurait fallu un team de médias sociaux par brand. Puis il faudrait éventuellement, si on décide de le ramener un jour, une équipe de développement des affaires. T'sais, comme, mais on n'est pas là. Puis on l'a jamais été. Donc je pense d'avoir fait ce processus-là de dire, c'est comme un peu un agent d'artiste qui peut avoir, on va dire, 10 artistes à représenter. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui sont mieux traités que d'autres dans le portefeuille d'artistes. Peut-être prendre l'analogie de Jerry Maguire, pour ceux qui ont peut-être déjà vu le film. Lui, l'agent, il s'était mis all-in sur un artiste. Puis il a tout mis son temps, son effort et son énergie sur un artiste. Puis après mon épisode d'Aller au Dragon, je sentais que mes investisseurs actuels puis les gens autour de moi me disaient tu devrais tout faire puis tout mettre sur Jackalope.
T'avais pitché Jackalope ou t'avais pitché Tribu en général?
J'ai pitché les deux, puis c'est ça qui était difficile à comprendre, je pense, parce que d'un côté on est une agence, donc on peut faire tout ce que tu veux, puis de l'autre bord on a un produit qui s'appelle Jackalope, mais c'est dur d'avoir la même équipe qui fait les deux.
Pour toi c'était peut-être clair, mais pour le public ou les autres?
C'était dur à comprendre, mais c'est sûr que quand tu regardes, mettons, le pitch sur Netflix ou whatever, tu vas voir que c'est grandiose, parce que t'as comme des événements ici, t'as du skidoo, t'as du base jump, t'as du motocross, t'as tellement de stock que d'un côté c'est comme holy shit, c'est grandiose. Mais après, comme quand tu rentres les deux mains dedans, même pour nous à l'interne, c'est dur de mettre beaucoup de focus sur chaque affaire. Puis quand on parle d'exporter, puis de faire de l'international, puis éventuellement de développer, moi, je me suis rendu compte qu'il faut que je mette du temps sur un brand, puis d'avoir aussi l'agence, du moins Tribu, tu sais, qui fait des trucs sur mesure pour certains clients. tant mieux. C'est un peu comme le Cirque du Soleil. Moi, je partais de cette analogie-là. Je me disais, le cirque, ils ont un brand qui est cirque, puis ils ont des brands par show. Fait que mon but, c'était, c'est encore un peu ça, mais ce serait de devenir le Cirque du Soleil, de l'adrénaline. Donc, t'aurais Tribu qui est le house brand, avec Jackalope qui est comme un show. T'aurais comme chaque marque qui serait un show. Mais ce bout-là, on n'avait pas été capable de le faire.
Est-ce qu'il y a des plus grandes compagnies qui ont fait des propositions d'achat hein, sans être indiscret par rapport à Tribu? Est-ce qu'on a voulu vous acheter aux States, au Canada?
Il y a eu des discussions, certaines plus sérieuses que d'autres. Mais tu sais, j'ai jamais trouvé le bon fit, ni l'offre qui ferait du sens. Présentement, j'ai travaillé sur un investor's deck, là, justement, pour être capable de lever du financement dans les deux prochaines années, là, probablement. Une fois que la crise de la COVID va être un peu plus terminée, même si c'est pas mal terminé, parce que dans l'événementiel, tu vis dans le futur. Fait que, aujourd'hui, on planifie pour 2022-2023. Fait que, même si aujourd'hui, la COVID n'est pas terminée, il reste que... En événementiel, tu planifies toujours vers l'avenir, donc on le sent que ça va être fini en 2022-2023, du moins j'espère.
On se croise les doigts.
On se croise les doigts, c'est clair. Fait que, t'sais, je pense qu'il va y avoir une opportunité d'investissement pour des joueurs externes. Probablement pas de nous acheter, mais t'sais, peut-être juste de nous prendre une participation.
Ouais,
exact.
C'est intéressant, ouais, pour pouvoir vous propulser plus loin aussi.
Oui, parce que c'est ça le problème. À un moment donné, on a fait, je pense, le plus qu'on pouvait avec les moyens du bord, tu sais. Puis je pense que le momentum olympique puis la croissance des sports individuels autour de la COVID, il y a 300% d'augmentation dans les ventes de skateboard comme les ventes de mountain bike ou de kayak. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de t'acheter un article de sport extérieur présentement ou acheter des matériaux de construction.
Ouais.
Tout le monde s'est pitché dans l'outdoor, les rénovations. Puis le skateboard n'a pas fait d'exception, 300% d'augmentation en vente de casques, en vente de planches. Fait que, ça, c'est tout du nouveau monde qui attend qu'un événement pop pour venir avec maman, papa, puis éventuellement venir voir les meilleurs. Fait que, c'est du marché potentiel. Puis je pense que ça, c'est bon pour au moins jusqu'à 2032. Parce que c'était, là, c'est Paris 2024, ils rajoutent le breakdance au jeu. Ça, c'est Los Angeles qui est juste à côté, c'est North America. Ça va avoir des répercussions jusqu'au Canada, c'est sûr. Puis c'est pour ça que je vais aller aux États-Unis pour trouver des villes américaines. Après, c'est Brisbane en Australie en 2032. Fait que 10 ans de tendance de croissance facile dans tout ce qui est outdoor.
Très intéressant ta maîtrise des tendances puis de ce qui s'en vient. Déjà, tu es en 2032. Waouh, ça, vraiment, c'est très, très, très intéressant. Puis. Peut-être là, on comprend, j'imagine un peu mieux, là, ceux qui nous écoutent comprennent un peu mieux où tu t'en vas, c'est quoi la compagnie. Si tu me permets, on va zoomer un peu dans l'organigramme, un peu à l'intérieur. Ouais. Tu disais que tantôt que vous êtes 8, peut-être 9 avec toi. Vous êtes 8-9 en ce moment. Ouais. Ça ressemble à quoi un organigramme, si je peux me permettre de dire ce terme très corpo, là, tu sais? Ça ressemble à quoi? Qui s'occupe de quoi? Parce que vous avez tellement de projets. Là, je me permets de faire le lien avec l'intra, tu sais, avec
bien
l'entrepreneuriat.
Sûr.
Ça se matérialise comment chez vous, ça?
Aujourd'hui, on a une équipe qui fait tout. Dans le fond, une équipe qui fait tous les projets de tribu, donc les projets de signature pour nos clients. On a fait une campagne marketing pour Guru cet été avec du sampling, de la création de contenu, etc. Puis de l'autre côté, on a la même équipe qui fait Jackalope. Donc, qui va faire Jackalope TV, la production de vidéos. Donc, à l'interne,
oh, ouais,
c'est la même équipe. Fait qu'à l'interne, on a 8 personnes multidisciplinaires qui gèrent chacun plusieurs projets. On a une directrice communication marketing, une directrice de production. Donc, tu as un département, on va dire, communication, avec un réalisateur vidéo, une cour d'eau, médias sociaux, communication, puis une directrice com, un graphiste. Donc, déjà là, il y a 3-4 personnes. Il y a moi au développement des affaires, qui est clairement pas assez, mais présentement, je suis seul au développement des affaires. Puis après, il y a une équipe de prod, production, qui livre des trucs. Donc, quand moi, j'ai vendu le projet, je passe le flambeau à l'équipe de prod qui travaille avec l'équipe de com. Donc, c'est un petit marathon, puis une petite équipe multidisciplinaire. Puis tu vois, cet été, on a fait une tournée de 15 skateparks à travers le Québec. On a fait plusieurs projets vidéo, là. Plusieurs jours de tournage pour des clients aussi diversifiés que le Palais des Congrès à Gourou, puis en passant par Vidéotron. On travaille un projet actuellement avec l'Impact.
Des gros clients, by the way, si je peux me permettre.
Oui, des gros clients, mais des plus petits aussi. Tu sais, on travaille avec BMO puis le CF de Montréal,
ouais,
là, pour la reprise des matchs de soccer. Fait que, tu sais, c'est vraiment diversifié. Puis là, c'est pour ça que quand on parlait d'investissement tantôt, moi, mon rêve, ce serait d'avoir une équipe tribu puis une équipe Jackalope, dans le fond, qui pourrait travailler à l'année juste sur le brand, parce que c'est là qu'il y a le plus de potentiel d'exportation. C'est là qu'on a besoin d'entrepreneurs, parce que bâtir une marque, c'est pas les mêmes skills que produire un événement pour quelqu'un, je sais pas. Ça va peut-être être dur à comprendre pour ceux qui sont à l'extérieur du milieu, mais c'est comme être cuisinier dans un restaurant puis exécuter la recette, c'est probablement plus simple que de, on va dire, owner une franchise. Puis là, présentement, moi, je veux partir de ma marque puis créer, on va dire, des franchises, mais c'est pas tout à fait ça le concept. Mais fait que là, j'ai besoin de gens qui vont s'occuper de développer Jackalope aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Europe. Le skateboard est global. Puis on sent qu'avec notre brand, on est bien positionné pour capturer, on va dire, le sport compétitif amateur. T'as les X-Games, que certaines personnes vont peut-être connaître, qui est comme le pinacle, tu sais, dans le fond, du monde de compétition dans ces sports-là. Mais entre ça et la compétition de skateboard amateur au skatepark du coin, il y a fuck all. Puis c'est là que nous, avec Jackalope, on va faire un circuit de qualification mondiale dans les 10 prochaines années. Rien de moins! Non, mais on va faire des qualifications mondiales pour ramener des gens à notre finale montréalaise et ou ailleurs. Puis éventuellement, le but, ça va être de dire « Hey, Jackalope, il y a, on va dire, 20 000, 30 000, 40 000 personnes. C'est le plus gros festival de sport extrême au monde. » Puis c'est à Montréal. Fait que là, le tourisme Montréal t'est intéressé. La ville de Montréal t'est intéressé. Éventuellement, les sponsors sont intéressés. Puis là, ça génère du contenu parce qu'on a Jackalope TV, mais on peut remettre ce contenu-là dans les avions, comme fait juste pour rire avec les gags. C'est là que le modèle d'affaires est beaucoup plus complexe que Tribu, qui exécute des projets, on va dire, avec un client, un brief, puis une date de début, une date de fin. L'univers, on va dire, de la marque Jackalope est complexe. C'est comme une personne qui serait responsable juste des destinations, des villes qu'on parlait tantôt. Il y a de la job, il y a de la job pour 20 personnes juste là. Quelqu'un qui serait en charge de content production and distribution, c'est comme produire du contenu, puis le donner à toutes les chaînes de télé partout sur la planète. Il y a de la job là pour une équipe de 20. C'est parce que tout va ensemble, tu sais. Comme, si, imagine, comme les gags avec Juste pour rire. C'est ça qui fait beaucoup d'argent pour Juste pour rire, entre autres. Puis dans le sport extrême, il n'y a pas tant d'argent à faire avec du contenu de sport extrême, mais il y a de la visibilité à aller chercher. Comme présentement, nous, avec Samsung, on a un deal. Toutes les télés Samsung dans le monde entier, ils viennent avec une application qui s'appelle Fuel TV. Fuel TV, toutes les télés de Samsung 2017 et plus ont Fuel TV. Puis dans Fuel TV, il y a une section Jackalope. Fait qu'on a un potentiel de reach de 800 millions de foyers worldwide. Puis ça, c'est un deal de distribution. On a quelques épisodes. Mais je sais qu'il y a un marché où on pourrait être dans tous les avions si on donne notre contenu. Fait que si on produit plus de contenu puis on le distribue mieux, la marque Jackalope va devenir plus visible, donc plus rentable, plus valorisable, je sais pas comment dire. Puis là, les sponsors vont vouloir embarquer. Puis là, les villes vont vouloir un piece of it. Puis là, ils vont dire, hey, viens faire ton événement chez nous parce que tu vas couvrir la ville, la région. Puis et des villes comme Salt Lake City, tu sais, qui payent des centaines de millions ou des millions, c'est pour attirer des événements. Ils veulent se positionner pour dire, nous autres, on est hot. La Caroline du Nord, tu sais, comme le monde connaît peut-être moins la Caroline du Nord, mais dans le même état, tu peux faire du surf, du mountain bike, du skateboard, tu peux faire plein d'affaires dans un même état. Puis c'est là où les états sont comme amène-en de l'événementiel. Fait que ça prend des intrapreneurs pour piloter chacun de ces verticaux-là. Le contenu, la commandite, les villes, puis les produits dérivés aussi, parce que là, on peut faire des vêtements, des t-shirts, des casquettes, des skateboards avec Jackalope. Le potentiel est un peu plus infini pour avoir du weed Jackalope, t'sais, pour avoir de la bière Jackalope, toute la business de licensing. Une fois que le brand, mettons que le brand est dans tous les avions, là, à chaque année tu rejoins 300 millions de foyers, t'sais, comme fucking visible. Genre. Rien n'empêche que Jackalope devienne le prochain Lululemon. T'sais, comme tu pourrais faire du merch ultra tech, comme partenariat avec Yeti, quand même un gros brand. Bref, t'sais, comme merch. Un entrepreneur, un visionnaire, bâtisseur d'une marque de produits dérivés, puis qui va éventuellement bâtir la marque avec le e-com, puis avec des deals de licence. Puis là, on revient à toutes les cinq marques que j'avais tantôt en terminant. Ouais. Je peux pas faire ça pour chacune des cinq marques, c'est impossible. Donc, Jackalope est notre fer de lance, puis à travers notre chemin, on croise des entreprises, puis des marques qui nous disent hey, c'est cool ce que tu fais avec Jackalope, mais ça me parle moins, mais tu peux-tu m'aider à organiser mes 20 ans de mon entreprise aussi ou ça? Puis c'est là que Tribu ramasses des opportunités.
Ouais, c'est... Encore une fois, ceux qui écoutaient ça, tu sais, quand on parle mission, vision, valeur, blablabli, là, les 5 dernières minutes, c'était ta vision, mon gars, c'était... Je me sens privilégié d'avoir vécu ça. Je te voyais, là, c'était... T'étais comme en transe de partager jusqu'où ça peut aller, tu sais.
Ouais, puis...
C'était là, pour vrai, c'était cool, man.
Thanks, man. Puis je sais que ça va être dur d'entendre puis éventuellement de décortiquer ça parce que c'est un vibe, right? Comme ouais. Je pense que tu le feel, là, tu sais, comme on est dans la même pièce puis éventuellement, comme... Je fais soit des conférences Zoom ou des conférences dans des écoles pour essayer de parler de la relève parce qu'on a besoin de stagiaires, on a besoin d'employés. Puis surtout, j'ai besoin de bras, tu sais, genre, j'ai besoin de monde avec une bonne tête. Puis aujourd'hui, on est fucking 8, là, tu sais, genre, comme, c'est une business qui pourrait être 150 employés et plus. Il y a 4000 emplois chez Cirque du Soleil, tu sais, je veux dire. Puis la prochaine entreprise canadienne, Cirque-ish, là, tu sais, genre, parce que, juste pour rire, a été vendue à des intérêts américains quand il y a eu le scandale avec Gilbert. Cirque était vendu complètement.
Ouais.
Evenco, qu'on connaît, mais qui appartient maintenant à 51% à Live Nation. Il est où l'entertainment québécois, tu sais? Puis t'as des belles organisations comme Mural ou comme d'autres, Landmark, etc. Mais on a clairement pu l'époque cirque. Donc le côté, hey, Montréal, c'est trendy, c'est créatif, c'est cool. Oui, puis il y a Moment Factory qui fait une méga job avec Foresta Lumina et autres. Mais moi, j'aimerais ça, tu sais, comme éventuellement que Montréal soit de shit, tu sais, genre pour les 20 prochaines années dans tout ce qui est entertainment interactif. Je pense que l'adrénaline, puis sport extrême, est un bon vecteur. Puis ça se bâtit pas de ça.
C'est clair.
À date, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est moi plus une couple de très bons employés motivés, mais ça va prendre des investisseurs, silencieux ou pas, donc du cash. Ça prend des contacts, ça prend du monde allumé, tu sais, qui va venir travailler ou s'investir pour une couple d'années. Puis c'est pour ça qu'on a agrandi nos bureaux, là. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le voient pas, on est Saint-Laurent-Marianne, on était quatrième étage dans un 4000 pieds carrés qu'on partage avec d'autres mondes. Puis là, on a agrandi un 5000 pieds carrés. Tout, bref, on est vraiment rendu avec deux salles de conférence, un plus gros setup, c'est fou dans la tête. Mais tu sais, comme il y a de la place, tu sais, pour grower. Puis quand la pandémie est arrivée, on a célébré les 10 ans de tribu. Puis je me suis dit, OK, c'est quoi les 10 prochaines années? Tu sais, j'avais du temps pour réfléchir. Puis c'est vrai que c'est pour ça que c'est devenu clair. C'est comme, qu'est-ce que je dois faire? Puis là, ben le fun, c'est d'éventuellement parler avec du monde, parce que tu sais jamais qui écoute. Puis qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui va écouter, qui va dire, fuck yeah, moi je m'en viens. Puis où c'est que j'applique? Puis let's go.
Ouais, parce que je sens que même, tu vois, dans l'industrie de l'accueil, tu sais, à THQ par exemple et tout, c'est pour ça que ça cadre trop bien de venir te voir. On comprend vraiment le marketing de destination, l'importance pour une ville de se brander, de tourisme, etc. Tu sais, te parler de tourisme, cerveau et de headquarters, hyper intéressant. Ça fit dans le cours, ça fit dans le programme. Mais je sens que les étudiants, certains d'entre eux, ont un désir de sortir un peu, tu vois, du corpo, brand, marque de l'hôtellerie traditionnelle. Et j'ai l'impression que les compétences que ces étudiants-là ont, la relève, peut être mis à profit chez Jackalope. Tu sais, tu n'as pas juste besoin de monde en com, de l'UQAM qui arrive du Milan. Tu sais, tu as besoin de monde aussi qui ont cette vision-là de l'industrie, peut-être.
Ben oui, totalement, parce que, tu sais, je pense que on parle beaucoup d'expérience ou de marketing expérientiel en événementiel. Tu sais, puis t'sais, pour moi, un événement... Ça devrait pas être juste 3 jours dans un calendrier. Là. Ça devrait commencer à quand tu reçois la première promotion dans ton feed, à éventuellement quand tu as acheté tes billets, à éventuellement si tu parles à quelqu'un sur le customer service des médias sociaux ou si tu appelles, à quand tu arrives à l'aéroport. Nous, quand on va chercher nos athlètes invités ou nos VIP à l'aéroport, il y a toujours un petit six-pack dans le frigo avec Raps. Quand il arrive, un petit mot perso. On va chercher ton engagement, une compagnie de shuttle. On fait le shuttle avec du monde clé. Puis quand Tony Hawk est arrivé à Montréal, on avait des chums, ils sont allés le chercher. Puis c'est comme tous les athlètes sont traités comme des rois. Fait que tu sais, l'hospitalité, tu sais, comme. Et, puis Montréal a cette réputation-là de bon vivant. Mais tu sais, je pense que le brand Montréal doit se ressentir à tous les touch points, toutes les étapes, tu sais, dans le fond, de l'expérience consommateur ou le consumer journey. Puis c'est clair que tu sais, il y a des éléments là-dedans que c'est pas toujours aussi clair que si c'est une job de com ou c'est une job de prod ou. Non, c'est une job d'attention aux détails qui éventuellement, selon ma compréhension d'un programme THQ, tu fais vraiment plus partie d'une réalité du monde hôtelier.
Oui, exact. Puis c'est super intéressant que tu vois comme ça. Puis je me permets un petit zoom là, de revenir sur la mécanique encore. Parce que tantôt, tu parlais que c'est clair que le développement pourrait passer par les entrepreneurs. Puis c'est intéressant de voir ta vision. Je pense que c'est intéressant pour, t'sais, pour la gang qui écoute en disant « Puis ouais, là, on comprend, il y a eu des défis COVID. » Puis peut-être que le prochain développement pourrait se faire avec de l'intrapreneuriat. C'est un peu ça que je comprends. Ouais. Mais toi, comme fondateur, comme CEO, l'intrapreneuriat vient avec une structure un peu indépendante, très autonome. Toi, là-dedans, comment tu te sens comme manager, comme chef de l'équipe? T'es-tu rendu là, tu sais, de laisser lousse, puis écoute, on se parle une fois semaine ou deux semaines, puis tu me fais un petit briefing, puisque toi, tu es sur d'autres dossiers. C'est un peu ça aussi, en intra, c'est une structure dans la structure, t'sais.
Ben, moi, t'avoue que j'ai jamais été confronté à une réalité d'un cas d'entrepreneuriat intégré. T'sais, j'ai déjà regardé des opportunités de merger avec des compagnies ou comme d'actionnariat ou whatever. Puis, je pense que je suis rendu là après 10 ans parce que je connais assez bien ma plateforme. Puis, je sais ce que je connais, ce que je sais pas. Exemple, il y a plein d'éléments que j'ai pas envie de devenir un expert, mais j'aimerais mieux que quelqu'un qui soit déjà expert, tu sais, comme ça greffe, puis éventuellement on travaille ensemble. Donc, oui, ça vient avec liberté, un laisser-aller, puis je suis capable d'être micromanager, mais maintenant je le sais, puis je sais comment, je pense, donner la latitude, puis le niveau de reporting ou d'information que j'ai besoin, tu sais, pour être capable de donner ce lousse-là. Fait qu'après 10 ans à faire Tribu, qui est ma deuxième entreprise, j'ai une compagnie de skate avant qui s'appelait Ripper. Tu sais, comme j'ai fait ça pendant 8 ans, à temps partiel pendant mes études, tu sais, on va dire, j'ai passé à travers tout le processus de Dans l'œil du dragon, qui n'est pas juste le pitch puis la visibilité à la télé, mais aussi comme comment tu évalues ta compagnie, comme quel rôle un futur investisseur prendrait, que serait quoi le partage, tu sais, comme whatever, tu sais, comme c'est un processus, tu sais, qui a été quand même super formateur. Donc, j'ai pas une réponse claire, malheureusement, à te donner, à part le fait que je sens que ça va être un travail d'équipe. Je veux pas être un one-man army, ou un one-man show. J'ai pas d'ego dans des tribus, ça dit, on rassemble. On signe souvent nos événements à tout petit en bas, c'est fait par tribu. Fait que c'est pas comme... J'ai besoin de têtes fortes qui viennent autour de la table pour meubler, je pense, les lacunes que j'ai ou que... Puis je pense qu'on a profité des opportunités qu'il y a pour éventuellement travailler sur des objectifs puis de l'atteinte d'objectifs. Moi, je suis objectif-driven, tu sais. Si tu veux venir puncher des heures, ben on va te rentrer comme salarié, puis ça va faire ta paye, puis on va faire une révision à tous les 6 mois, 1 an, puis tu vas bien gagner ta vie, tu vas faire du fun, tu vas travailler sur des projets trippants que tu trouveras nulle part ailleurs, là, ou à peu près, là, tu sais, comme... Il n'y a malheureusement personne qui a un portfolio comme Tribu au Canada. Hein, t'sais, genre en sport extrême, avec des événements grand public, ça n'existe pas. Je pense qu'on a une offre qui est assez intéressante, mais c'est ça. Pour revenir à ta question, je pense que je cherche peut-être des gens clés qui arrivent avec des bagages puis des objectifs de croissance personnelle et professionnelle puis qui vont être groundés sur le sommet de la montagne, t'sais, puis qui vont dire ben, je vais t'aider, puis je viens comme ça, je viens avec ça, puis pour travailler, j'ai besoin de ça, fais-moi confiance. Puis
pour l'entrepreneur qui a comme on dirait un rêve via Jackalope, il y a quand même cette sécurité d'avoir une paye, d'avoir accès à toi, à un avocat limite, ou tu sais, à pas toute créer. C'est ça, c'est un peu ça aussi qui est son levier pour cette personne-là. Puis ça serait cool que ça fonctionne, parce que tu sais, tantôt tu parlais de. Tu sais, par exemple, d'une skateuse aux Olympiques qui n'est pas assez connue ici, ou de Septos qui est pas. Mais Tribu n'est pas assez connu non plus dans le domaine, tu sais. On préfère cette même analogie-là pour vous autres, là. Ouais, plus connu aux States, limite, j'ai l'impression, là.
On est connu dans nos cercles parce que Tribu a un positionnement très B2B. Fait que, tu sais, genre, on n'a pas vraiment de positionnement auprès des consommateurs, puis probablement moins auprès des étudiants ou du monde universitaire, à part au Québec ou à Montréal même. Tu sais,
that's it. Et encore.
Ouais. Encore, tu sais, de la place en maudit. Mais je pense que Jackalope, dans le marché montréalais québécois, a une petite résonance. Mais on sait qu'il y a un énorme travail et un potentiel hallucinant. Mais il faut qu'on sorte en tout cas, de juste une image skate fest. Il faut qu'on ait une image plus grand public. Ça, c'est des enjeux de com, c'est une autre histoire. Mais.
C'est nice, man. C'est vraiment intéressant. Puis écoute, je pourrais continuer vraiment longtemps, mais j'aurais peut-être des quick, rapid, fire questions pour toi qui ont plus ou moins rapport, puis comme ça, ça te laisse le temps de penser à un petit conseil et puis un petit mot de la fin. Là. C'est quoi ton truc pour la créativité? Ça fait 10 ans, mais là, t'arrives, là, tu mets encore plein d'idées puis plein de projets, même du weed, même de la merch, puis c'est quoi que tu fais pour que ton muscle de cerveau fonctionne à ce point-là?
Pour moi, c'est le voyage. Tu sais, comme, c'est peut-être difficile de voyager en temps de pandémie, mais tu sais, comme tu peux, là. Comme, si tu veux voyager, sinon tu peux écouter des vidéos de voyage ou tu peux écouter de la musique. Moi, j'écoute de la musique pas mal, tu sais, l'électro, un peu des pop, whatever.
Est-ce qu'il y a un artiste que tu peux recommander à la gang et à leur prof?
Ouais, c'est clair. Ben, je t'enverrai une playlist si tu veux, puis tu peux la partager. Nice. J'ai comme plein de playlists sur Spotify. Fait que, peut-être que ça vous intéresse de regarder une playlist Jackalope aussi, là, Jackalope Fest sur Spotify. T'sais, je pourrais t'envoyer la playlist parce qu'il y a, comme, il y a beaucoup de stock.
Pis... On va comprendre un peu la vibe aussi. Là.
Ouais, ouais, exact. Ouais. Moi, c'est ce qui m'aide là, d'écouter du beat puis de travailler sur un battement. Fait que, éventuellement, un processus créatif, pour moi, c'est le voyage et la meilleure source. Mais tu sais, c'est rare qu'on peut voyager toutes les semaines, tous les mois.
Mais quand tu voyages, c'est quoi? Parce que tu sais, je veux dire, c'est le cas souvent pour plusieurs personnes. Est-ce que tu as un carnet? Est-ce que tu prends des notes vocales quand tu as des idées de spot dans l'avion, quand tu fais le siège? Je sais pas comment ça marche.
Ben moi, je suis curieux de nature, donc tu sais, je vais parler à tout le monde, là, l'itinérant sur le coin de la rue, le fournisseur, n'importe qui veut bien me parler, je vais y parler. Je vais prendre des notes dans mon cell, comme je vais prendre des notes dans un calepin, dans mon laptop. Fait que tu sais, je pense que tout le monde est capable d'avoir des idées, comme on disait tantôt, mais c'est toujours dans l'exécution. Puis je pense que des fois, on est comme tous connectés sur un genre de Wi-Fi commun ou collectif, puis une idée... Si tu l'as, quelqu'un l'a déjà eu. Fait que tu fais juste comme la grabber, tu sais, du Wi-Fi, si on veut, puis tu l'amènes, puis tu la notes où tu veux, là, comme on disait tantôt, calepin, peu importe. Mais après, comme, qu'est-ce que tu fais avec cette idée-là? Puis si tu la notes pas, ou si tu l'accroches pas, elle va repartir, puis elle va continuer à spinner, puis peut-être qu'à un moment donné, t'es comme, ah, j'avais pensé à ça, puis quelqu'un d'autre l'a fait. Ben oui, mais tu sais, c'est comme, faut que tu le grabes. Je pense qu'il faut être allumé et connecté. Puis le voyage sert à être connecté à d'autres individus qui sortent de tes sphères de connexion habituelles. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, en parlant avec quelqu'un totalement random, il va avoir, la conversation, le trois-quarts, n'a peut-être pas nécessairement un sens direct, mais si tu portes une attention particulière, puis si tu es comme into it, tu vas peut-être entendre ce que tu veux entendre, ou ça va peut-être t'allumer des lumières qui vont faire que là, tout devient clair. Puis Malcolm Gladwell parlait de l'epiphany moment. Là, dans le fond, à un moment donné, pour devenir un maître de ton art, tu as besoin de cumuler 10 000 heures à faire quelque chose. Là, il fait des comparables avec...
Avec un samouraï aussi. Ouais, 10 000 fois le même
mouvement. 10 000 fois le même mouvement ou la même réflexion. Fait,
c'est intéressant, c'est vrai en même temps.
Fait que t'sais, repetition makes perfect in a way. Fait, anyway, je pense que c'est le voyage pour moi qui m'a donné le plus de sources d'inspiration puis des fois trop d'idées qu'après... C'est plus sur lesquels focusser, mais ça, c'est un problème.
Ça, c'est un beau problème, limite.
Ouais.
Y a-t-il un livre qui t'a fait triper, roman ou plus corpo, business ou juste vraiment un BD ou tu sais? C'est quoi le livre qui t'a fait comme vraiment qui a piqué ta curiosité là?
J'ai pas eu beaucoup de temps pour te lire dernièrement, mais tu sais, Outliers de Malcolm Gladwell, je pense, Tribes avec Seth Godin, puis. Sinon.
Ben ça, guys, prenez des notes, c'est super important. Le tribe, c'est comme ça. Maintenant, tout le monde parle de tribu plus que de marché. T'sais, des fois, ça ne fait pas partout avec l'entreprise. Ben, il faut être in dans les termes, mais vous autres, c'est dans votre ADN. Ça fonctionne.
Ouais, thanks. Puis, tu sais, je pense que tribu, c'est un drôle de mot, c'est un drôle de nom. J'ai toujours aimé le côté vibratoire. T'sais, dans le fond, c'est comme quand tu fais un spectacle de musique, tu es en transe avec l'artiste on stage, mais dans le fond, tu n'es pas vraiment t'es en transe à cause de la vibration dans le son et les speakers qui défonce la cage thoracique, que ce soit sur l'alcool ou peu importe, mais en fait, pourquoi tu connectes avec l'artiste, pourquoi tu deviens un fan de l'artiste, c'est que ce que la personne dégage a été amplifié par un kit de son d'éclairage qui t'a surstimulé visuellement ou à l'ensemble de tes sens, puis éventuellement, t'es devenu un adepte ou un... C'est comme une religion. Hein. En fait, il y a plein de parallèles à faire avec Apple ou avec l'Église ou avec ce qu'ils appellent les cult brands, en fond, là, des marques cultes. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu es tellement en transe ou tu es un super fan de l'un ou de l'autre, éventuellement, tu pardonnes des erreurs à la marque. Tu pardonnes.
T'es comme... t'es fidèle sans condition. Quoi.
Exact. T'es tatoué, t'es vendu, mais t'es comme t'es en amour. C'est powerful parce que. Il y a plein de monde qui ont des logos, puis on va des slogans, Il n'y a pas tout le monde qui a, on va dire, un brand, un vrai brand, une vraie promesse claire. Puis, c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, comme tout le travail tribu qu'on fait, j'enlève rien à ce que l'équipe fait, puis tout, mais on va dire bâtir une marque culte. Puis, il y a un super trade show qui s'appelle justement, le Cult Gathering à Banff. Puis, c'est genre les CMO de la plupart des grosses compagnies worldwide qui se retrouvent là. C'est relativement dispendieux, mais il y a un tarif étudiant, je pense. Mais checker ça, Cult Gathering, Banff. Épique, là, genre, pis t'es comme le CMO de Under Armour qui est rendu le CMO de Yeti, pis t'es comme du monde hyper haut placé chez Red Bull, pis t'es comme toutes les marques les plus folles qu'on trippe toutes dessus, tu sais. Là, ils parlent de marketing pis comment bâtir un tribe, tu sais. Parce que souvent, le mot tribe est rarement utilisé, mais au final, ben, tu sais, c'est une fragmentation des audiences parce qu'on a tous des intérêts, des goûts différents. Mais à un moment donné, on se rassemble, puis on va dans une même direction, un peu comme le parallèle de l'église avec le Sunday, là, le dimanche.
Vraiment.
Un peu comme le football aussi aux États-Unis, toujours
carrément,
le dimanche.
Carrément, ouais. C'est les traditions comme ça qui restent pour des générations en même temps aussi. Là. C'est la, c'est la durée, c'est le long terme, c'est...
Ouais, c'est comme le gâteau à la fête de n'importe qui. Tu sais, comme pourquoi le gâteau est un symbole de sucre et de célébration? Pourquoi le sucre, en général, est associé à un happy moment? Puis pourquoi on chante toujours les mêmes chansons? Tu sais, comme... Fait que, tu sais, il y a des éléments culturels là-dedans qu'en voyageant, tu constates que... Hey, pourquoi les autres font ça de même? Tu sais, comme, tu vas... C'est sûr que tu vas au Canada, aux États-Unis, tu vas voir relativement le même type de comportement, mais comme, si tu as la chance de voyager en tant qu'étudiant ou en tant que jeune professionnel, puis tu vas dans des trade shows, puis tu parles à du monde, puis ils disent comme, OK, nous on fait ça comme ça, très bon, les shit, OK. Puis là, ça t'amène une autre perspective.
Puis ce qui est tellement intéressant, je pense que c'est le mot que j'arrête plus de dire, là, c'est intéressant de tout, mais j'espère, encore une fois, je m'adresse aux auditeurs de un peu de voir à quel point Micah a compris l'importance des codes dans la vie, tu sais. Les codes, oui, du skate que tu as retrouvé partout dans le monde, maintenant qui passe du... Tu sais, avant, c'était plutôt peut-être une certaine frange de population qui skatait. Maintenant, c'est rendu hip-hop, c'est rendu rap, c'est rendu partout. Tout le monde skate, c'est nice de tous les âges. Ceux qui skataient en 80, maintenant, c'est rendu les PDG maintenant, ça sera les juges après. C'est... Fait que tu es dans une vague vraiment, vraiment intéressante avec beaucoup de potentiel. Thanks. Puis les codes, tu les as compris, tu sais. Fait que... Peut-être un dernier mot avant qu'on te laisse aller parce que t'es hyper occupé. Merci d'ailleurs d'avoir pris le temps.
Ah, ça fait plaisir. Puis c'est tellement le fun de jaser justement avec toi parce que je pense que tu saises bien l'ensemble de la réalité puis dans laquelle j'œuvre. Puis des fois, moi-même, je suis pris dans un carcan de. Je suis trop les deux mains dedans, comme on dit. Fait que j'ai besoin moi-même d'avoir cette perspective-là. Donc, je salue ton initiative de parler avec différents entrepreneurs puis de nous permettre des fois d'avoir ce recul-là, cette perspective-là, puis de regarder, hey, c'est vrai, il y a ça. Puis,
est-ce que des fois, genre, tu te sens seul? Je me permets une parenthèse, mais tu sais, t'es dans ton truc, il y a tes employés qui sont comme, peut-être qui te challenge, peut-être ta blonde, ta femme ou la famille, mais est-ce que des fois, genre, tu te sens seul dans ton environnement, quoi, dans ta réalité, tu sais?
Ah ouais, totalement. Je pense que ça, c'est la réalité qu'on parle moins, tu sais, de l'entrepreneuriat. Tu sais, comme il y a comme une vague là, de « Hey, à ton compte, puis tu fais ton horaire, puis ci, puis ça. » Puis il y a plein de mimes sur Internet comme que tu peux dire « tu pensais avoir de la liberté puis plus de temps, mais finalement, quand tu es à ton compte, tu travailles juste sans arrêt. » Mais tu sais, si tu fais ce que tu aimes, je pense que c'est ça le mot de la fin. Si tu fais ce que tu aimes, oui, tu vas travailler sans arrêt, puis tu vas avoir des idées en pleine nuit, puis tu vas te réveiller, puis tu vas les prendre en note. Mais est-ce que c'est vraiment du travail ou est-ce que tu bâtis quelque chose? Je pense qu'il y a une énorme différence entre, on va dire, vendre ton temps pour un bout de papier avec des chiffres dessus, peu importe quoi les chiffres, parce qu'au final, t'es comme, c'est unidirectionnel, t'sais, une job, t'es comme, t'as vendu ton temps, puis c'est ça qu'on a tous. Le monde le plus riche et le monde le plus pauvre sur la Terre ont juste 24 heures sur la Terre. Vois ça comme tu veux, comme, tu choisis ce que tu fais de ton temps. Là, je ne vais pas sonner un peu coach de vie ou motivationnel, mais au final, c'est juste vrai. Il faut que tu fasses ce que tu aimes, parce que sinon, tu peux passer 40 heures et plus dans une semaine à haïr ce que tu fais, puis juste le faire pour une paye, puis des engagements financiers, que ce soit un condo, un char ou autre.
C'est triste, non?
Mais c'est triste. Puis c'est facile d'être pogné, on va dire, dans le rat race. Là, dans le... Puis là, éventuellement, comme... Tu t'as acheté un gros condo, tu as peut-être un gros char ou peu importe, puis là, tu as un assez gros salaire, puis... Puis finalement, t'es comme. t'es le clown t'es le plus triste du cirque, tu sais, au final. Dans mon cas, je vis bien, je manque de rien. Puis pendant la pandémie, ça a été, puis c'est encore ultra fucking stressant, tu sais, parce qu'on vient de l'événementiel dans un monde où le gouvernement dit que tu peux pas te rassembler, il faut que tu portes un masque, puis que et c'est tout sauf rassembleur. Mais pour ceux qui étudient là-dedans, puis ça, c'est le vrai mot de l'affaire, enfin, en pensant... mais pour ceux qui étudient dans l'entertainment puis dans l'événementiel, je suis convaincu qu'il y a une genre de époque hippie, là, un peu Woodstock, nouveau genre qui s'en vient, parce que là, on a tous été séparés pendant tellement longtemps que là, il y a le on va dire le moment reunion là, qui s'en vient. Puis là, tout le monde va vouloir comme, créer des événements, les marques, les villes, les destinations, pour éventuellement rassembler leur communauté d'affaires, leurs étudiants avec les balles définissants, les ça. Fait que les gens qui étudient en production événementielle ou en entertainment, déjà là, il y a une pénurie, puis moi, je pense que c'est le tip of the iceberg. Hein, parce que tout le monde qui était dans l'industrie, il y en a beaucoup qui sont changés d'industrie, puis sont allés faire autre chose. Fait que là, n'importe qui étudie là-dedans, puis qui est un peu patient, puis qui veut faire ses preuves, puis évoluer dans un monde d'entertainment, là, mais je pense que les opportunités vont être nombreuses, puis autant pour les entrepreneurs que les salariés.
Puis tu as parlé depuis le début de divertissement. Moi, je rejoins tellement ton propos. Je pense que tu vois, dans l'hôtellerie, la restauration, les transports, les agences de voyage, les bureaux d'information touristique, les festivals, on est tous dans la gang du divertissement, pour moi, à un certain niveau. Puis vraiment intéressant d'avoir vu ton prisme de lecture, en tout cas, de ce qui s'en vient, comprendre plus tribu. T'as droppé une couple de gems assez solide, puis je suis certain que la gang là, va vraiment triper à t'écouter, Micah. Merci beaucoup, mon gars.
Très apprécié, merci pour l'opportunité. Puis la porte est toujours ouverte si vous voulez brainstormer, partager des idées ou si vous voulez me contacter. Mes infos sont en contact / du site tribu.co. Puis on va avoir des offres de stage qui vont popper aussi en début 2022.
Il drop ça à la fin de l'entretien, j'aime ça.
C'est le call to action, hein? Non, mais c'est vrai, tu sais, on va avoir 5 stages pour l'été prochain, justement pour travailler sur Jackalope. Puis ça va autant dans des trucs de billetterie, de com, de production, de développement des affaires. Puis à chaque année, on a toujours plusieurs stagiaires, puis c'est pas des stages bidons. Là. Tu viens pas faire le café chez Tribu. Là. Tu t'en viens fucking bootstrap, faire de la job, puis c'est trippant. Puis on. En tout cas, règle générale, puis depuis les 10 ans qu'on le fait, c'est le fun comme échange d'avoir du monde qui arrive avec des nouvelles perspectives. Donc, Charlotte, à toi pour l'initiative, merci pour l'opportunité, merci puis au toi, plaisir de peut-être de recroiser certaines personnes. Dans l'avenir.
Yeah, man, avec plaisir. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Micah, Tribu, go check out the site web, LinkedIn, alright, aussi?
Ben ouais, merci.
Partout, let's go. Alright, merci tout le monde. Ciao.